Radio Prague, les informations.
Le gouvernement Nečas stable pour 2013 sur un déficit budgétaire à 2,9% du PIB. Présidentiel tchèque, Miloš Zeman a recueilli assez de signatures pour sa candidature. Et puis en tennis à Wimbledon, Petra Kvitova, tenant du titre, s'impose pour son entrée en lice. Selon une source de l'agence de presse tchèque ČTK, le gouvernement est actuellement en train de plonger sur la préparation du prochain budget de l'État et de définir l'évolution du déficit budgétaire à moyen terme. Le ministre des Finances Miroslav Kalousek a ainsi présenté une première version de la loi budgétaire de 2013. Le déficit devrait se situer en 2013 à 2,9% du PIB, passer sous la barre des 2% en 2014 pour atteindre moins de 1% à l'horizon 2015. Le gouvernement attend la version finale pour la fin du mois d'août. Alors qu'il examine ce mardi le projet de la loi budgétaire 2013, le gouvernement a validé l'enveloppe budgétaire destinée au développement et à l'innovation, une enveloppe qui s'élève à plus de 25 milliards de couronnes. Le budget destiné à la recherche scientifique est équivalent à celui de 2011. Par rapport à 2012, il représente un manque d'environ 700 millions de couronnes. L'Académie des sciences tchèques verra son budget réduit d'environ 300 millions de couronnes. Le parti de Miloš Zeman a fait savoir qu'il avait recueilli assez de signatures pour que l'ancien Premier ministre puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2013. Le président du Parti des droits civiques, Zemanovce Vratislav Menaš, a précisé ce mardi que la pétition soutenant la candidature du Miloš Zeman avait recueilli plus de 50 200 signatures en 2 mois et que d'autres venaient se rajouter encore. Zeman, qui a également été nominé par 10 sénateurs, ce qui aurait suffi à sa candidature, voulait également sonder son soutien auprès des électeurs au travers de cette pétition. Plus d'informations sur la présidentielle tchèque dans quelques instants dans les faits et événements. 3/4 des enfants tchèques ne suivraient pas les recommandations internationales préconisant au moins 60 minutes d'activité de mouvement tous les jours. Selon le rapport international sur la santé et le style de vie des enfants et écoliers présenté par le ministère de la Santé tchèque, un 1/5 des petits garçons tchèques et un 1/6 des petites filles souffriraient de surpoids ou d'obésité. Le ministre de la Santé a souligné à cette occasion que l'enfance est une période où les enfants se construisent tout en étant souvent malades et qu'une simple baisse des maladies pourrait permettre d'économiser des milliards au secteur de la santé. Et puis, c'est à noter que c'est avec une représentation de Richard III que seront lancées ce mardi les fêtes d'été de Shakespeare au château de Prague jusqu'au 7 septembre. Elles se dérouleront également à Brno, Ostrava, Bratislava, Zvolen et aussi pour la première fois à Plzeň. Un mot de sport et de tennis plus précisément pour finir. Tendu à l'idée de devoir défendre son titre à Wimbledon, Petra Kvitova s'est imposée face à Akgul Aman Muradova. La Tchèque a accédé au second tour en 2-7, 6-4, 6-4. Au prochain tour, Petra Kvitova affrontera la Britannique Elena Baltacha ou l'Italienne Karin Knapp. Et puis, à noter que cela a été la grosse surprise de ce Wimbledon. Tomáš Berdych, finaliste il y a 2 ans et annoncé parmi les grands outsiders de cette édition 2012, a pris la porte dès le premier tour. Le numéro 6 mondial est tombé sur un os lundi dès son entrée en lice. Opposé à Ernest Gulbis, qu'il avait déjà battu à Memphis en 2010. Tomáš Berdych s'est incliné en 3-7, 7-6, 7-6, 7-6. On finit par un mot de météo. Mercredi, le temps sera clair sur une bonne partie du pays, hormis sur le flanc ouest du pays où des précipitations sont attendues. Les maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés. Nous fêterons les Ladislaves. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Magdalena Rozinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Anna Kubishta pour son bulletin d'information. À la une aujourd'hui, le financement de la campagne présidentielle. Les candidats ont reçu leur premier million de couronnes. Paul Bauer vous en dira plus. Ensuite, c'est la danse qui sera au rendez-vous. Václav Richter a assisté au spectacle de la compagnie Irina Brook, basée sur l'Odyssée d'Homère et présenté ce lundi au Théâtre National de Prague. Enfin, dans notre rubrique Panorama, Alexis Rosenzweig vous emmènera au sous-sol d'un hôtel pragois où a été enfermé à plusieurs reprises le dissident Václav Havel par les autorités communistes. Reportage dans la deuxième partie de notre programme. Très bonne écoute à toutes et à tous. La prochaine élection présidentielle tchèque se tiendra dans un peu plus de 6 mois. Ce scrutin, prévu pour le début de l'année 2013, sera historique puisque ce seront les premières élections du chef de l'État au suffrage universel direct. Une modification du mode de scrutin qui change les règles du jeu, notamment celui du financement, a été au cœur d'âpres discussions. Alors que la liste des candidats s'allonge avec l'arrivée de nouveaux postulants à la fonction présidentielle, la bataille des fonds de campagne a bel et bien commencé. Les détails avec Paul Bauer.
Les candidats à l'élection présidentielle tchèque de 2013 sont lancés dans la course au financement. Les premiers millions sont arrivés dans la majorité des caisses de campagne. Le favori des sondages, l'ancien Premier ministre par intérim, Jan Fischer, a reçu près de 2 millions de couronnes, 80 000 euros, dont une grande partie de l'entrepreneur Mikuláš Švéda, directeur d'Exchange, l'une des principales entreprises de change du pays. L'homme d'affaires a affirmé à la presse qu'il était mécontent de la situation peu réjouissante de la scène politique. Il considère Jan Fischer, qu'il ne connaît pas personnellement, comme la preuve qu'un homme politique peut avoir du caractère et être porteur de principes moraux. Il a également précisé que seule une personnalité non partisane pouvait être élue à la fonction présidentielle. En tête des sondages, Jan Fischer entend récolter près de 30 millions de couronnes, 1,2 million d'euros. La limite fixée par la Constitution s'élève à 40 millions de couronnes, soit 1,5 million d'euros. Dernier candidat entré dans la course, Vladimir Dlory, ministre de l'Industrie et du Commerce de 1992 à 1997 sous le gouvernement Klaus, aurait déjà recueilli près de 4 millions de couronnes, soit environ 160 000 euros de deux entrepreneurs tchèques dont il tait pour le moment le nom. Conseiller à la banque d'affaires Goldman Sachs en Europe centrale, il est également membre de la commission trilatérale qui regroupe des membres influents de la vie politique, économique et intellectuelle européenne, américaine et asiatique. Considéré jadis comme l'un des hommes politiques les plus populaires et les plus respectés du pays, la fin de son mandat est toutefois entachée par les affaires de corruption qui ont touché les privatisations des grandes entreprises industrielles d'État. Par ailleurs, son appartenance dans le passé au Parti communiste tchécoslovaque constitue également un important handicap à sa candidature. Pour les observateurs, l'arrivée de Vladimir Dlory bouleverse les clivages de la campagne établis entre les partisans d'un président indépendant, tel Jan Fischer, et ceux d'un candidat lié à un parti politique. Le directeur de l'agence d'analyse sociologique Factum Invenio, Jan Herzmann, considère que Vladimir Dlory dispose de sérieuses chances de profiter d'une dispersion du vote des citoyens. On écoute Herzmann.
Jusqu'à présent, les choses se présentaient ainsi. Pour le deuxième tour, nous avions deux alternatives, soit Jan Fischer et Jan Švejnár, ou encore Jan Fischer et Miloš Zeman. Désormais, personne ne sait ce qui va se passer lorsque les électeurs qui souhaitent un candidat indépendant et ceux favorables à un candidat issu d'un parti politique vont se diviser non plus en deux, mais en trois partis.
Le candidat du Parti social-démocrate Jagi Dinsbir compte recueillir de 12 à 15 millions de couronnes, environ entre 500 et 600 000 euros de son parti. Le ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, par ailleurs l'une des personnalités les plus riches du pays, peut compter sur le soutien du milliardaire Zdeněk Bakala. Alors que l'ODS n'a pas encore confirmé la candidature de l'ex-président du Sénat Přemysl Sobotka, l'ancien Premier ministre Miloš Zeman, souvent nommé parmi les candidats les plus sérieux et soutenus dernièrement par son ancien rival, le président Václav Klaus, ne dispose encore d'aucun fonds de soutien au lancement de son éventuelle candidature.
C'est un voyage plein de surprises, de rires et d'astuces que nous propose la compagnie Irina Brook dans son spectacle basé sur l'Odyssée d'Homère. La fille du célèbre homme de théâtre Peter Brook a adapté l'épopée qui est un des piliers de notre civilisation pour une petite troupe de 4 comédiens et l'a débarrassée de tout académisme. La compagnie Irina Brook vient de donner 2 représentations de cette Odyssée revue et corrigée en République tchèque. Les publics de Hradec Králové et de Prague ont longtemps applaudi les exploits de l'Ulysse en basket et de ses compagnons. Václav Richter a eu l'occasion de s'entretenir avec 3 comédiens de ce spectacle.
Une odyssée d'après Homère, tel est le titre du spectacle qui permet aux quatre acteurs d'incarner une foule de personnages et stimule avec beaucoup de légèreté et d'efficacité l'imagination des spectateurs. Raphaël Le Guyon, Ismaan Yakini et Tonim Pudja ont déployé dans ce spectacle leur talent et leur humour. Tonim Pudja présente l'histoire de cette production.
C'est une pièce qui s'appelle l'Odyssée, comme vous le savez, mise en scène par Irina Brook. Donc c'est une pièce qui existe depuis 10 ans maintenant, qui a beaucoup tourné. Et il y a eu des pauses et ça fait 4 ans qu'elle recommence à tourner. Donc c'est une pièce où il y a 4 acteurs qui racontent la même histoire, donc celle d'Ithaque, le retour d'Ulysse vers Ithaque. Et donc c'est une pièce qui dure 1h05, qui est assez courte, où il se passe beaucoup de choses et où les personnages sont divers et variés, où chacun de nous joue plusieurs personnages, même Ulysse, c'est l'acteur qui joue Ulysse, joue aussi Télémaque, donc tout le monde joue plusieurs rôles. Donc c'est vraiment Ithaque revisité, version jeune, version classique.
C'est Raphaël Le Guyon qui incarne Ulysse, héros tiraillé entre la mythologie et la modernité.
Je suis toujours à cheval, finalement, entre le Ulysse vraiment de la mythologie que je dois incarner comme un guerrier, etc. Mais en même temps, je suis au départ un élève, parce que je dois préciser que le début du spectacle, nous sommes des élèves, nous écoutons notre professeur qui arrive pour un cours sur l'Odyssée, la mythologie grecque, et nous, on en a marre, quoi. Parce que nous, on veut raconter l'Odyssée à version jeune, en fait, comme on dit dans le spectacle, à notre façon, à nous. Donc c'est vrai, il y a beaucoup d'aller-retour entre la modernité et le passé. Et je dirais qu'en fait, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre ça, justement, parce que nos costumes, déjà, sont très modernes, on est habillé comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire là comment je suis habillé, c'est les baskets que j'ai dans mon spectacle, mon compagnon pareil, je crois que c'est les mêmes chaussures aussi, on va pas dire la marque, et donc voilà, et tout en étant dans cette modernité, on est des élèves qui rentrent vraiment dans ça y est, on devient ces personnages, et donc on est comme des enfants qui jouent à faire ça pour de vrai en fait, et je dirais que c'est tout l'état d'esprit d'Irina Brook qui travaille vraiment sur cette chose de l'enfance et du jeu et de l'amusement et du vrai quoi.
Ismaan Yakini passe avec une facilité époustouflante d'un rôle à l'autre. Elle est tantôt une Circé sensuelle et perfide, tantôt une Pénélope fidèle et astucieuse, tantôt un Cyclope borné et anthropophage. Voici comment elle voit la méthode de mise en scène d'Irina Brook.
Quand il y a un texte, on part du texte, mais après, elle le réadapte. C'est-à-dire que, en fait, ça dépend. Parce que l'Odyssée, c'est vraiment une vraie création collective qui est arrivée avec nos mots à nous. Et on a lu les 24 chants de cette épopée. Et puis, tous les jours, elle nous disait, on va travailler sur cet épisode, le Cyclope. Donc, lisez-le et improvisez-le. C'est des jeunes qui jouent à le raconter. Dernièrement, on a monté La Tempête de Shakespeare, où là, on avait vraiment le texte de Shakespeare. Donc, on l'a retravaillé sur certains passages, comme on le faisait à 5 personnages, et puis qu'elle a lié des liens entre les personnages, donc on a inventé à l'intérieur, mais sinon la trame et le texte de Shakespeare est resté le même. Donc sa méthode de travail, c'est beaucoup de liberté, beaucoup d'improvisation, on se réapproprie les choses, elle fait qu'on invente autant qu'elle invente, en fait, parce qu'elle nous laisse beaucoup d'espace de liberté pour inventer. Et donc quand on part de l'Odyssée, on improvise tous les jours, après il y a quelqu'un qui note tous les jours, et puis on revient dessus et on retravaille. Ça fait des allers-retours entre le plateau et un petit peu la table. Elle ne travaille pas trop autour de la table, Irina.
Si vous voulez en apprendre plus sur cette production originale de la compagnie Irina Brook, écoutez ce samedi la rubrique « Rencontres littéraires ».
Dans notre rubrique Panorama, nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec Jiří Vidím, propriétaire d'un hôtel du centre de Prague, qui a la particularité de conserver dans son sous-sol la cellule où a été, entre autres, enfermé à plusieurs reprises le dissident Václav Havel par les autorités communistes. Ce bâtiment de la rue Bartolomiejska, confisqué par le ministère de l'Intérieur, avait en effet été transformé par la STB en une prison de triste réputation. Jiří Vidím est au micro d'Alexis Rosenthal.
Panorama.
Panorama.
Bonjour, Jiří Vidím.
Où est-ce qu'on se trouve ici? Nous sommes dans la cour intérieure d'un immeuble au centre de Prague.
Oui, d'immeuble qui s'appelle l'hôtel Unitas. Maintenant, c'est Bartholomewska 9, l'adresse. C'était à l'époque un lieu d'horreur de la police secrète de l'État.
De la STB. Alors il faut juste rappeler pour l'histoire que ça a été d'abord un bâtiment qui appartenait aux jésuites. Et puis les jésuites ont été interdits. Et effectivement, alors sous le régime communiste, c'est la STB qui y avait une tristement célèbre prison, juste ici, dans les sous-sols.
Oui, exactement. Mais entre l'STB et les jésuites, c'était l'autre des sœurs grises. C'est un autre qui existe.
Les sœurs grises de Saint-François.
De Saint-François, exactement, de Saint-François. Ils sont les franciscanes, les sœurs. Ils s'occupent d'hôpitaux, ils sont infirmières. Ils étaient infirmières à l'époque. Maintenant, le chiffre est 23 sœurs. Une partie vit ici, à côté de nous, et l'autre vit dans un lieu au milieu des forêts qui s'appelle Lometz.
Parce que alors le bâtiment a été restitué après la chute du communisme, oui, à cet ordre, et donc qui a récupéré. Mais alors vous, comment est-ce que vous êtes devenu le directeur, le gérant de cet hôtel?
Le gérant de tous les bâtiments des sœurs, qui appartiennent à des sœurs, parce que la restitution a compté 100 bâtiments dans un état ruiné, absolument ruiné. Et les sœurs les ont restitués, mais sans aucun moyen financier. Et l'idée est arrivée dans ma tête. À l'époque, on manquait beaucoup à chambre à Prague pour les touristes. Pourquoi pas ouvrir une pension pour les touristes, pour les étudiants, pas charger beaucoup. Et voilà, ce bâtiment était parfait pour ça.
C'était à une époque où il y avait à peine une trentaine d'hôtels à Prague, c'est ça?
Oui, moins que ça, 20, 100, presque rien. Et l'entrée, c'était énorme. Nous avons ouvert la porte et immédiatement toutes les chambres étaient pleines. Mais voilà, il y avait des chambres avec quatre lits.
Les lits superposés.
Les lits superposés, je les ai achetés de l'armée tchécoslovaque pour 5 ans courant, une pièce. Et nous avions à l'époque 150 lits ici.
Dans quel état est-ce que vous avez trouvé les cellules, les prisons qui étaient ici dans le sous-sol?
Voilà, c'est devant Noël 1992. Prince Charles de l'Angleterre est arrivé en accompagnant M. Václav Havel. Prince Charles a choisi 3 monuments à Prague. Il a fondé une fondation à Londres pour collecter un petit moyen pour la reconstruction des 3 monuments. Et un des 3 était l'église de Saint-Bartholomé. C'était à l'époque communiste. La police secrète a utilisé cette église pour comme un lieu où on a traîné des fusillés.
Pour l'entraînement au tir.
Pour l'entraînement de tir.
Et alors vous avez mentionné Václav Havel qui a fait le tour du propriétaire au Prince Charles. Et Václav Havel connaissait bien les lieux puisque c'est ici qu'il a été incarcéré de nombreuses fois pendant sa période de dissidence. Et c'est lui qui a montré au prince Charles où est-ce qu'il avait été enfermé, puisqu'il a été enfermé dans une de ses cellules ici.
Il y avait 6 ou 7 cellules pour les hommes. Et dans l'autre côté de bâtiment, 5 ou 6 cellules pour les femmes. Et ça va arriver avec prince Charles ici, là-bas. Nous sommes ici, devant la porte. Et il a lui montrer des 3 cellules. Il n'avait pas sûr où se trouvait la cellule de lui. Mais à la fin, il a montré une de ceux. C'était la fameuse cellule P6.
P6.
P6, oui. Voilà, c'était un impulse pour nous à commencer, voilà, une petite reconstruction, échanger les cellules pour les touristes.
C'était donc en 1992. Est-ce que les touristes venaient pour ce côté historique, pour ce côté, disons, un peu sensationnel, ou ils étaient attirés par d'autres choses ici?
C'était une chose un peu compliquée, parce que voilà, de faire l'argent au nom de Václav Havel était une chose très sensible. Je ne voulais pas être accusé d'être un qui s'enrichit, voilà, au nom de notre président. Et voilà, c'est cette cellule P6 était en lignée dans tous les autres, sans aucune spécialité. Nous avons placé une petite plaquette en disant « Monsieur Václav Havel a été incarcéré ici ». C'était tout. Et voilà, je pense que on manquait beaucoup de chambres ici à Prague. Et c'était la raison principale pour l'entrée ici.
Il est revenu d'ailleurs en 2004, je crois, avec une équipe de télévision pour tourner un documentaire dans son ancienne cellule.
Oui, c'était un réalisateur tchèque qui voulait faire un film de Václav Havel. Václav Havel part pour vacances. C'était le nom.
Václav Havel part en vacances.
Part en vacances. Et une partie de ce film a été fait ici, chez nous, où se trouvent les cellules de l'STB. Il y a de la circulation de l'eau froide pour la climatisation. Seulement, la cellule P6 est là. Nous n'avons pas touché cette cellule. Et vous pouvez la voir, c'est dans un état original.
On peut y aller?
Oui, certainement. Maintenant, nous nous trouvons ici. Il y avait des cellules pour les hommes. Maintenant, vous pouvez écouter, c'est la climatisation qui marche ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules pour les hommes. La porte originale, ici. Mais nous allons là-bas, où se trouve la cellule de Václav Havel. C'est ici. Et voilà, monsieur, vous pouvez entrer.
Effectivement, il n'y a pas grand-chose.
Non. Il y a deux lits.
Est-ce qu'il était enfermé ici seul?
Quatre hommes, quatre ou six. Et tous les lits étaient placés vers le mur pendant la journée. Et à 10 heures soir, là-bas, et on pouvait s'installer sur le lit et dormir.
Alors on voit un petit lavabo. Est-ce qu'il y avait
le
aussi...
lavabo original. Voilà, va savoir belle. Ça l'avait ici. Vous pouvez, c'est un trou ici, à la tour.
Et donc ça ne sert pas pour les touristes ici?
Il y a beaucoup de clients qui arrivent chez nous à l'Unitas, qui demandent, voilà, d'être guidés ici. J'ai fait le guide de temps en temps, et mes collègues aussi. Nous sommes fiers d'avoir montré cet endroit pour les touristes.
Et il y a donc cette plaque.
Oui, c'est en anglais. On dit « Président Václav Havel a été incarcéré ici ». Et Václav Havel a vu cette plaquette. Et je pense qu'il en a aimé.
Merci beaucoup, Jiří Vidim.
Oui, je vous en prie.
Kirsi Vidim a été l'invité d'Alexis Rosenzweig dans notre rubrique Panorama. C'est ainsi que s'achève le programme de Radio Prague en français. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi. Le reste de l'actualité tchèque, vous le savez, c'est au www.radio.cz/fr. Au revoir, à demain.